Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On part loin, très loin aujourd'hui avec mon invité. Je passe mon temps à prêter ou à conseiller son livre. On va y revenir tout de suite. Je vous annonce la suite quand même, le roman culte. Bien sûr, nous parlerons du Guide du voyageur galactique de Douglas Adams tout à l'heure. Nous en lirons un extrait. Nous visiterons aussi la bibliothèque d'Hugo Frey. Ça vaut le coup. Nous rejoindrons Stanislas Rigaud dans sa librairie pour connaître ses favoris du moment. Et ce grand enfant de Victor Dolande nous rejoindra pour sa chronique jeunesse. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre. C'est parti. Premier chapitre. Allez, entre nous, vous vous êtes jamais demandé ce qu'on faisait là, je veux dire, sur cette planète-là, à s'habiller tous les matins, partir au boulot, élever les enfants, choisir ses vacances, et encore, et encore, et encore, franchement, à quoi ça rime tout ça? Et si nous n'étions en fait que des programmes informatiques? Et si tout notre environnement et nous-mêmes n'étaient qu'une simulation, une sorte de jeu vidéo géant? C'est l'un des thèmes du nouveau roman d'Hervé Le Tellier, L'Anomalie, chez Gallimard, un roman digne d'une excellente série télé, mais en mieux donc, puisque c'est un roman. Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va y aller doucement quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je résume, mars 2021, un avion Air France décolle de Paris, direction New York. Avec 200 passagers, c'est un Boeing 787 piloté par le commandant David Markel, numéro AF06. Les bulletins météo n'indiquaient rien, mais soudain, un énorme cumulonimbus apparaît et l'avion ne peut pas l'éviter. Et un avion qui passe là-dedans, je peux vous dire que ça se passe mal. Les passagers sont secoués dans tous les sens, les hôtesses et les stewards ne font pas les malins non plus. Le cauchemar. Certains commencent même à faire leurs prières. Vous voyez l'idée. Finalement, miracle. Ils réussissent à passer et ils atterrissent à New York. Ils auront un truc à raconter. Mais attendez, 3 mois plus tard, la tour de contrôle de New York prévient les autorités. Il y a un problème. Un autre Boeing 787 Air France AF06 apparaît dans le ciel. Même équipage et même nom de passager. C'est un peu trop pour être une coïncidence. Alors on escorte l'avion, on débarque tout le monde. Et là, on se rend compte que ce ne sont pas exactement les mêmes passagers. C'est une copie. L'avion a été dupliqué et les passagers aussi. Et on suit dans le roman quelques-uns de ces passagers, des gens qui donc ont un double dans le monde. Hervé Le Tellier, c'est quoi cette idée?
Alors c'est une idée qui était en gestation. Disons depuis longtemps, j'avais envie de travailler sur le thème du double, de me poser la question de la confrontation à soi. Et donc pas le clone, pas quelqu'un qui nous ressemble, mais vraiment la question de savoir quand on est face à soi-même, quelqu'un qu'on ne peut pas mentir, qui a notre passé, notre histoire, nos souvenirs, nos affections, nos détestations, comment est-ce qu'on négocie avec cette personne le fait d'avoir une seule vie et d'en avoir deux en même temps. Donc on aime quelqu'un, mais malheureusement on est deux à l'aimer et elle nous aime tous les deux de manière équivalente. Donc comment est-ce qu'on négocie l'intégralité des situations auxquelles on est confronté?
Vous savez, il y a un adjectif qui est un peu galvaudé quand on parle de roman, c'est jubilatoire. Mais alors ce roman-là, il est vraiment jubilatoire parce que, évidemment, avec cette situation, on peut s'amuser. Et vous avez bien sûr choisi plusieurs types de personnages très différents. Il y a Blake, par exemple, un tueur à gages et un très bon, qui change d'identité toutes les deux semaines. Il y a Slim Boy, qui est un chanteur pop nigérian. Il y a un architecte, aussi une jeune femme qui élève son enfant seul. Victor Mizel, un écrivain. Vous avez conçu vos personnages justement pour vous amuser de chaque situation ou pour explorer tous les possibles?
J'ai voulu avoir un panel de personnages qui se situe sur toutes les échelles des âges, de toutes les races et de tous les genres. Et donc j'avais une petite dizaine d'individus à suivre, qui tous avaient leurs caractéristiques propres, leur histoire personnelle, leur drame, leur intimité. Et à partir de cet ensemble de personnages, j'ai voulu me poser les questions qui paraissaient essentielles, qui étaient justement cette question des négociations, cette question de la confrontation à soi. Et finalement, en ayant le maximum de personnages, ça me permettait d'offrir au lecteur une identification à chaque fois différente s'il le désirait, et même plusieurs identifications successives. Je pense que le tueur à gages, par exemple, n'est pas si antipathique que ça et qu'on peut assez rapidement s'identifier à lui, que l'avocate noire américaine est suffisamment universelle pour être un personnage avec qui on a envie de converser, etc. Et je vais donc de la petite fille de 6-7 ans à l'homme architecte de 65 ans, et entre ces deux personnalités, j'ai toutes les gradations possibles, vraiment. J'ai voulu avoir un maximum de personnalités offertes au lecteur. Ça ne me paraissait pas, comment dire, l'égarer. Je pense qu'à un moment donné, j'ai des caractéristiques de personnages suffisamment fortes pour qu'on puisse assez facilement les identifier. Et puis après, on joue avec ces personnages comme on joue avec un jeu d'échecs et où on déplace les pièces et on voit ce qui se passe.
Sauf que chaque personnage pourrait être un roman à lui tout seul, tellement ils sont
bien
dessinés. Je précise que, effectivement, chaque personnage a quand même son histoire propre. Et vous parliez du tueur à gages, le roman s'ouvre avec lui. Et bon, je ne vous raconte pas, bien sûr, mais c'est une histoire de meurtre, évidemment, et comment il se débrouille pour ne pas laisser de traces et tout ça. Et c'est génial. Ça commence comme un bon vieux polar. Et presque, je me suis demandé si vous n'avez pas eu envie de continuer en vous disant « Oh, j'écris un polar, finalement !» Parce que c'est vraiment génial, ce personnage.
J'avais le projet, au départ, de travailler sur ce qu'on appelle les genres littéraires. Et donc, de me dire, voilà, je vais commencer un livre avec un polar, mais je vais le continuer par un deuxième chapitre qui sera un roman psychologique, un troisième chapitre qui sera un roman d'introspection, un autre encore qui sera un roman de guerre, puisque j'ai un personnage qui, la petite fille, est fille d'un soldat.
Qui vient de rentrer d'Irak.
Et à chaque fois, donc, j'avais envie d'avoir un genre. Et c'est vrai que le polar, je l'ai commencé comme un vrai polar, un peu un truc à la manchette, quoi. J'ai voulu faire un peu des pastiches, quitte à, une fois que tous ces pastiches étaient faits, unifier dans un seul roman tous ces styles. Mais c'est vrai que c'est pour un auteur, vous avez dit jubilatoire, mais en tant qu'écrivain, c'est vraiment formidable de pouvoir se dire « je vais pouvoir faire tous les genres, j'ai tous les droits et je vais utiliser cette possibilité que m'offre la littérature pour écrire absolument tous les romans que je veux dans un seul roman ».
Sauf que c'est très compliqué comme procédé narratif, parce que quand on change comme ça de personnage en personnage à chaque chapitre et qu'on les retrouve dans un autre chapitre plus loin, etc., c'est compliqué parce qu'il faut que le lecteur regrette de laisser un personnage auquel il s'était attaché, en espérant le retrouver bientôt, mais qui en même temps soit absorbé par le nouveau personnage qu'on lui propose.
Oui, c'est
quoi le secret? Il faut emmener le lecteur.
Oui, c'est ça. À chaque fois, il faut qu'on positionne les situations, qu'on définisse suffisamment les caractères, qu'on essaye d'avoir des individus qui, sans être des clichés, soient parfaitement identifiables. Et puis ensuite, on emmène le lecteur dans une seconde histoire. Et il ne faut jamais le perdre. Alors j'espère que ça marche, j'espère qu'on y arrive, mais quand je quitte Blake pour arriver par exemple sur l'auteur Victor Mizell, quand je quitte l'auteur Victor Mizell pour arriver sur l'avocate noire américaine, je suis dans des situations qui sont des situations typiques, en fait, de ces différents personnages. Le tueur à gages va raconter son premier meurtre, Victor Mizell va être pris dans une histoire romanesque, d'écriture romanesque, l'avocate américaine est confrontée à un procès sur un produit toxique qui emmène ceux qui sont confrontés au cancer.
Qui va donc, contre toutes ses valeurs, mais en même temps, elle a besoin de
gagner de l'argent. Elle a toute une série de problèmes personnels. Tout doit être exposé et les personnages doivent être suffisamment puissants pour effectivement être emblématiques d'une situation. Et après, quand j'en ai 7, 8 comme ça, j'espère ne jamais perdre le lecteur, qu'après, il les retrouve avec plaisir et avec curiosité pour savoir qu'est-ce qui arrive dans leur histoire. Et puis, je tisse ensuite une sorte de Scooby-Doo narratif. Ce qui effectivement dans les séries s'appelle des arches narratives pour arriver à recréer un saut d'un personnage à un autre, retrouver l'un, retrouver l'autre, voir comment ils se parlent, s'ils se rencontrent, s'ils ne se rencontrent pas et construire comme ça un roman qui est un roman de roman.
Mais vous avez créé les personnages et ensuite vous avez observé comment il allait se confronter au dilemme d'avoir donc un double dans le monde, ou alors c'est à partir de votre proposition de ce double que vous avez construit vos personnages?
Les deux, en général.
Les deux, d'accord.
Voilà, les deux, c'est-à-dire que j'avais évidemment le projet d'avoir cette confrontation des personnages, mais j'avais identifié des typologies de personnages que je souhaitais voir se rencontrer. Et, par exemple, l'avocate noire américaine à une sœur qui est gravement malade, et la manière dont elle résout la question qui est celle de la sécurité sociale, enfin de l'absence de sécurité sociale américaine, est une façon purement financière. Donc elle essaye de régler ce problème financièrement en acceptant un travail qu'elle n'accepterait pas sans doute en tant qu'avocate pour des raisons déontologiques si elle n'était pas confrontée à ce grave problème financier. Et à chaque fois, chacun de mes personnages est confronté à un petit drame ou un grand drame personnel que la situation de duplication va accentuer,
aggraver
et
ou résoudre.
Les deux.
Restez avec nous, Hervé Le Tellier. On replonge dans la grande simulation dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre avec notre invité, le romancier Hervé Le Tellier, auteur de L'Anomalie chez Gallimard. Superbe roman de ceux que l'on ouvre et qu'on ne lâche plus jusqu'à la dernière page. Je disais tout à l'heure qu'il y avait dans le type d'intrigue et la manière de l'écrire quelque chose de la série télé dans L'Anomalie, même si bien sûr il y a un style, c'est bien de la vraie bonne littérature. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que les séries vous ont inspiré pour ce roman-là en particulier?
Oui, c'est pas la peine de se mentir. C'est vrai que je suis devenu comme beaucoup de Français, hein, j'ai beaucoup regardé séries et j'ai été fasciné par une première série qui m'a vraiment frappé, qui était The Wire, sur écoute, je crois, en français.
Oui.
Et on voit comment elle est construite, on voit comment les personnages se définissent au fur et à mesure des épisodes, comment certains émergent, comment certains disparaissent, comment certains deviennent centraux, avec les 5 épisodes successifs, 5 saisons successives de cette série. Et j'ai eu envie de faire quelque chose qui soit, comme on dit dans les romans, choral, mais quelque chose qui soit justement de l'ordre de la série. J'ai eu envie de ça. Et ça m'a donc vraiment guidé dans cette direction-là. Je pense que dès le départ, j'ai eu envie de faire quelque chose qui s'apparente au style de la série. Et je ne voulais pas du tout m'en cacher. C'est-à-dire que je pensais que des séries comme Lost, des séries comme The Wire, justement, comme Le Bureau des légendes en France, sont aujourd'hui des éléments culturels réels. Qu'aujourd'hui, on fait plus de séries qu'on ne fait de cinéma, de films, et qu'il y a des bonnes raisons à ça, qui sont des bonnes raisons, y compris pour des créateurs. C'est plus collectif, évidemment, quand on fait une série. Un romancier est tout seul pour écrire une série de type, justement, littéraire. Mais évidemment, lorsqu'on doit écrire une vraie série avec des centaines d'heures, in fine, de scénarios, on doit être plusieurs. Là, ce qui est intéressant pour un auteur, c'est d'être seul à faire sa série. En sachant très bien que si un jour ça devient une série, on ne sera pas tout seul. Il y aura des dizaines de personnes qui vont nous aider à améliorer la chose.
Mais sachant que les séries ont tout piqué au feuilleton du 19e siècle,
sûr,
de Dumas, etc. Donc tout s'alimente comme ça, c'est assez beau finalement.
Bien sûr, si on voulait aujourd'hui faire une série, on pourrait prendre Le Comte de Monte Cristo. On voit bien que c'est une série. Les Misérables, c'est aussi une série. Il y a des personnages dans Les Misérables qui sont tout à fait constitutifs de ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler une série. Jean Valjean, Cosette...
Conçu par épisode dans les journaux,
bien
d'ailleurs.
Bien sûr, conçu par épisode, c'est évident.
Alors, cette idée de simulation pose quand même des questions assez vertigineuses, métaphysiques même. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté le début, l'idée, l'hypothèse, c'est que nous sommes des programmes informatiques, finalement. Nous sommes des Sims. Rien n'existe autrement que par l'informatique et d'autres. Ceux qui ont créé cette simulation nous observent, mais qui et pourquoi faire, Hervé Le Tellier? Et d'où ça vous vient, cette idée?
Alors, ce n'est pas une idée personnelle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a exactement 18 ans, un homme qui s'appelle Nick Bostrom...
Grand scientifique.
Un scientifique et aussi un philosophe. Hein, il dirige le département de philosophie d'Oxford. Hein. Donc, Nick Bostrom a eu cette idée qu'on peut définir ainsi. Il n'y a que 3 options. Dans 3 possibilités dans le monde. Soit toutes les civilisations techniques arrivent à extinction. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Je pense que si on n'est pas dans une simulation, on est en train de planter la civilisation d'une telle manière qu'on n'existera plus dans 100 ans. Soit certaines civilisations techniques survivent. Et dans ce cas-là, peut-être qu'elles ne s'intéressent absolument pas à la simulation. Essayer de simuler ce que pourrait être, par exemple, devenu Néandertal, ou ce que seraient devenus les dinosaures si un astéroïde n'était pas détruit. Bien. Et puis une troisième option, c'est ces civilisations ont survécu, elles s'intéressent à la simulation et elles en font. Et comme elles sont très techniques, elles peuvent simuler des milliers et des milliers de civilisations.
Avec des gros ordinateurs capables de calculer toutes les possibilités.
De la taille d'une petite planète, avec la puissance. On voit bien qu'un ordinateur a une puissance multipliée par 1000 tous les 10 ans. Donc imaginez ce que serait un ordinateur dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles. On peut imaginer qu'avec un petit ordinateur, on pourrait simuler une civilisation comme la nôtre, qui a 50 000 ans, hein, Cro-Magnon, avec 12 milliards ou 15 milliards de personnes ayant existé depuis le début de l'humanité. Et puis, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce voilà. que devient Cro-Magnon ?
On lance et on regarde.
Et on regarde, voilà. Donc, c'est cette hypothèse qui n'est pas du tout une hypothèse scientifique invraisemblable, qui fait qu'il y a eu un colloque consacré à cette hypothèse il y a environ une dizaine d'années au planétarium de New York.
On le fait déjà à notre niveau, de toute façon. Les
Absolument.
Sims, je le disais
on
pas
le
par hasard, c'est un peu ça, les Sims.
Bien sûr qu'on le fait. Quand on voit des jeux qui sont des jeux, ce qu'on appelle ces jeux massifs, où tout le monde joue simultanément, on fait ça. Et puis, dans les jeux eux-mêmes, il y a parfois des personnages qui existent. Alors, l'idée, c'est qu'évidemment, avec des ordinateurs infiniment puissants, on est à des milliards et des milliards de fois capables de simuler un individu. Et donc, pourquoi pas, oui, c'est pas impossible que lorsqu'on marche sur la plage et lorsqu'on regarde le soleil, qu'on fronce les yeux et qu'on a du sable entre les doigts, tout ceci soit totalement une simulation. Alors, c'est un peu vertigineux, ça fait un peu peur, mais c'est pas une totale invraisemblance. C'est pour ça que je récuse un peu le terme de science-fiction, j'entends parfois pour parler du livre, parce que pour moi, c'est pas la science-fiction, c'est une hypothèse
possible, philosophique,
pour laquelle on n'a pas de possibilité de prouver que c'est impossible. C'est vraiment ça le problème de cette idée. C'est qu'il est impossible de prouver que c'est faux. C'est ça le vrai problème. Hein.
C'est intéressant, mais ça ne résout pas la grande question de qu'est-ce qu'on fait là ? Puisque même si on était une simulation informatique, les types qui nous regardent et qui nous ont créés, ben eux, d'où viennent-ils ? Peut-être qu'ils sont une simulation eux-mêmes, d'ailleurs.
C'est aussi une possibilité, ça serait une sorte de simulation de simulation de simulation.
Tout ça pour dire que cette duplication d'avion est expliquée dans le roman par cette idée que nous sommes dans une simulation.
C'est-à-dire que c'est une des trois manières qu'ils ont d'expliquer la chose, et c'est celle qui leur paraît la plus plausible, et qui reprend donc cette idée d'un colloque qui s'est déroulé il y a une dizaine d'années, et où effectivement des gens qui sont des prix Nobel, qui sont ce qu'on appelle des médailles Field, des mathématiciens, se sont réunis collectivement à New York au Planétarium pour discuter de ça, et ont conclu que c'est peut-être possible, on ne peut pas prouver le contraire.
Résultat, ça donne un roman haletant dans l'intrigue, mais aussi on passe son temps à se poser des questions vertigineuses. C'est ça ce qui est jubilatoire. Alors, je ne vais pas raconter le reste de l'intrigue, surtout pas, je ne veux pas casser la lecture, mais je voudrais que vous me parliez quand même de la documentation. Je me suis dit, pendant que je lisais le livre, que tout avait l'air vrai.
Oui,
pas la simulation, mais la manière qu'ont les autorités américaines, par exemple, de gérer le problème. Il y a par exemple une sorte de bible des processus, des protocoles à suivre pour tous les cas de figure, dans tous les cas de figure, et elle a été inventée par deux chercheurs du MIT. Qu'est-ce qu'on fait en cas de pandémie ? Qu'est-ce qu'on fait en cas d'invasion du territoire, etc., etc., etc. Et statistiquement, tout ce qui pourrait arriver. Ça existe, ça ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que je me suis beaucoup documenté, c'est-à-dire que tout ce qui touche à la médecine, tout ce qui touche à l'architecture, tout ce qui touche au pilotage de l'avion. J'avais des spécialistes derrière que j'ai consultés, à qui j'ai demandé de valider ce que j'écrivais. Que toute l'histoire que je raconte sur la manière dont s'est passé le 11 septembre et qui a justifié ensuite la mise en place d'un protocole accélérant les décisions parce que ça avait été beaucoup trop long pendant le 11 septembre, ça a existé. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place un système. Mais ce qui a été mis en place reste évidemment top secret. Donc on ne sait pas. Donc j'ai imaginé qu'effectivement, ils avaient confié ce qui semble logique à des théoriciens des graphes, parce que ce sont des théoriciens des graphes et des gens qui s'intéressent aux probabilités, qui peuvent être les principales personnes capables de régler ces questions-là. Donc on a confié au département de mathématiques appliquées de Princeton et du MIT le soin de développer un ensemble de protocoles répondant à toutes les situations possibles.
Invasion d'extraterrestres,
voilà,
etc.
Et après, je me suis amusé effectivement, à imaginer, parce que là, c'est fictionnel, à imaginer ce que pourrait donner un protocole que j'ai appelé le protocole.
Ah ben voilà, parce qu'il manque ce cas de figure quand même d'une duplication d'un avion
alors
et de 200 passagers.
Mais c'est le cas où...
Voilà, c'est le protocole qui s'appelle le protocole 42 et qui est quand le cas de figure, c'est le cas de figure où le cas de figure n'existe pas.
C'est ça, c'est le cas de figure où il n'y a pas de cas de figure.
Mais alors attention, parce que protocole 42, il y a une petite référence à un roman culte des années 70, vous nous racontez ?
Qui est le livre, le guide du voyageur intergalactique, Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, dans lequel on demande à un supercalculateur, qui est le plus grand supercalculateur, en fait je crois que c'est le second supercalculateur de tous les temps, de répondre à la question « Quel est le secret de l'univers ?»
Le sens de la vie.
Le sens de la vie, voilà. Et il passe un temps monstrueux à répondre à cette question.
Des millions d'années.
Ouais. Au bout de plusieurs millions d'années de travail et de calcul, il répond 42.
Sauf qu'on n'a pas la vraie question.
Sauf qu'on n'a pas. On ne sait pas à quoi ça correspond, c'est 42. À part que c'est 6 fois 7.
Eh bien, justement, Hervé Le Tellier, restez là. Dans un instant, nous lirons la première page du guide du voyageur galactique. A tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix et Livre, toujours avec Hervé Le Tellier, auteur du génial roman L'Anomalie chez Gallimard. Il y est un peu question d'un autre roman, Le Guide du Voyageur Galactique. C'est le livre culte que j'ai donc choisi aujourd'hui. Alors, je sais, les plus fidèles auditeurs d'entre vous me diront qu'on l'a déjà écouté la saison dernière. C'est vrai, mais d'abord, je ne m'en lasse pas. Et puis, ça colle très bien avec notre invité. Je vous raconte. Le Guide du Voyageur Galactique, au départ, c'est un feuilleton radio diffusé en 1978. À partir de 1979, c'est devenu un roman du même auteur, Douglas Adams. C'est de l'humour britannique pur à la Monty Python. Il y a 5 tomes. Écoutez les titres. Le tome 1, c'est donc Le Guide du Voyageur Galactique. Le tome 2, Dernier restaurant avant la fin du monde. Ensuite, La vie, l'univers et le reste. Le tome 4, Salut et encore merci pour le poisson. Et le cinquième et dernier, Globalement inoffensive. C'est l'histoire d'Arthur Dent, un jeune Anglais un peu mollasse. Il vit à la campagne, dans une petite maison. Quand on le rencontre au début de l'histoire, il est très embêté parce que des bulldozers sont devant chez lui. Ils doivent raser sa maison. Mais au même moment, son meilleur ami vient le chercher. Il y a urgence. Il lui dit de lever le pouce en l'air. Et les deux amis sont pris en stop par un vaisseau spatial. Il était temps. La Terre est détruite quelques minutes plus tard. Et le meilleur ami d'Arthur lui avoue qu'il n'est pas terrien, en fait, mais qu'il travaille pour le guide du voyageur galactique, une sorte de guide du routard, mais à l'échelle de l'univers, et on suit les deux voyageurs dans leur pérégrination. C'est complètement dingue, déjanté et très très drôle. Écoutez la première page, lue par le comédien Philippe Dussault.
La maison se tenait, isolée, sur une légère éminence juste à la sortie du village et donnée sur les larges étendues de la campagne vers l'ouest. Une maison sans rien de remarquable, datant d'une trentaine d'années, trapue, carrée, bâtie en briques, avec en façade 4 ouvertures dont la taille et les proportions parvenaient à peu près totalement à ne pas satisfaire l'œil. La seule personne pour qui cette maison représentait quelque chose de particulier s'appelait Arthur Dent, et cela uniquement parce qu'il se trouvait y vivre. Il y vivait depuis 3 ans, exactement depuis qu'il avait quitté Londres parce que la vie citadine le rendait irritable et nerveux. Proche de la trentaine, il était grand, brun, et pas tout à fait bien dans sa peau. Ce qui l'ennuyait le plus était que les gens n'arrêtaient pas de lui demander ce qui avait l'air de l'ennuyer tant. Il travaillait à la radio locale, dont il ne cessait d'affirmer à ses amis qu'elle était bien plus intéressante qu'il ne le croyait sans doute. Il faut dire que la plupart de ses amis travaillaient dans la publicité. Le mercredi soir, il avait beaucoup plu, la route était humide et boueuse, mais au matin du jeudi, un soleil éclatant brillait au-dessus de la maison d'Arthur Dent pour ce qui devait s'avérer la dernière fois. Arthur n'avait pas encore parfaitement pris conscience que le conseil municipal avait l'intention de l'abattre pour y faire passer une déviation. Ce jeudi, à 8h du matin, Arthur ne se sentait pas très bien. Il s'éveilla, hagard, se leva, fit, toujours hagard, le tour de sa chambre, ouvrit une fenêtre, vit un bulldozer, dénicha ses pantoufles et se dirigea pesamment vers la salle de bain pour aller se laver.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Et voilà les premières lignes du Guide du Voyageur Galactique. J'imagine, Hervé Le Tellier, que c'est un livre qui a compté pour vous.
Oui, et puis je ne me souvenais pas que ça a commencé comme ça. Effectivement, c'est un abîme, c'est-à-dire que il y a sa maison qui va être détruite, mais en fait, c'est la Terre qui va être détruite et lui sauvé, donc c'est quand même assez amusant. C'est un livre qui a compté, oui, parce que, d'abord, c'est un livre extrêmement imaginatif. Et puis, il y a une chose qui m'avait toujours fasciné dans ce livre, qui était l'histoire du poisson, qui est un poisson.
Traducteur.
Le poisson traducteur qu'on met dans l'oreille et qui capte ce que dit l'interlocuteur dans une langue inconnue et qui, par ses frétillements de nageoire, est capable de traduire, faire des ondes qui correspondent aux ondes sonores de la langue de la personne.
Qui vous murmure la traduction.
Voilà, qui murmure
en fait.
La traduction à l'oreille par des mouvements de nageoire. Et ça, je trouvais ça merveilleux. Et ça a d'ailleurs donné un livre, qui est un très beau livre, de David Bellos, sur la traduction et sur les questions de traduction,
ah oui.
Et qui s'appelle Le poisson et le bananier, je crois, et qui est un livre de réflexion de manière générale sur comment on traduit. Donc pour un traducteur, c'est un livre qui est un peu symbolique. Et Douglas Adams est aussi un auteur qui, pour un écrivain, est très intéressant. Il a écrit un autre livre qui s'appelle The Meaning of Lif, L-I-2-F. Et lorsqu'on voit le sens de Lif, à part que lorsqu'on voit la couverture de loin, on voit The Meaning of Life, donc le sens de la vie. Et ce sont que des mots qu'il a inventés pour lesquels il trouve un sens. Et donc, c'est une sorte d'inventaire de mots qui ont vraiment un intérêt parce qu'ils visent à quelque chose. Par exemple, je ne sais plus, quelqu'un avait inventé un mot dont j'ai oublié le sens, mais qui était se trouver, lorsqu'on se gare à un péage d'autoroute, trop loin pour pouvoir mettre sa carte dans le... Et il y aurait un mot pour ça.
Et il n'y en a pas pour l'instant.
Il
n'y
en a pas de
mot
pour ça. Voilà.
Il faut les inventer et
donc,
merci à vous.
Donc c'est ce que faisait Douglas Adams avec The Meaning of Life.
Restez avec nous, encore des livres. Dans un instant, nous partons visiter la bibliothèque du Gaufret. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est livre.
La Voix est libre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio, prenez vos guitares, allumez le feu de camp, nous partons rencontrer Hugo Frey. Bonjour Hugo Frey.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous.
Ouais, c'est...
Pas très très loin de Paris, on est chez les Mousquetaires en fait, on n'est pas très loin de la maison d'Alexandre Dumas,
oui.
Le château de Monte-Cristo. Du côté de Port-Marly, Marly-le-Roi, tout ça.
Oui.
Et vous avez un côté mousquetaire, je ne sais pas pourquoi.
Parce que je suis gascon d'abord, je suis exactement du pays des mousquetaires et je pense que tous mes ancêtres, le baron Gaston de Coubiers d'Andiran, c'était un hobereau, c'est-à-dire ces nobles désargentés qui, pour s'en sortir, bon, il y en a toujours un qui héritait du château du pays, un autre qui rentrait dans le clergé. Et le troisième, c'est-à-dire le cadet, comme moi, Gascogne, il montait à Paris et il devenait mousquetaire du roi.
Vous êtes d'Artagnan, en fait.
Je suis de cette lignée-là.
On est dans votre petite maison, très chouette. On va parler de livres, bien sûr, on est là pour ça.
C'est la maison de Mayol, vous savez ça.
Ah non, je ne savais pas ça.
Alors, ici, vous êtes dans la maison du sculpteur Mayol.
D'accord.
Aristide Mayol, qui avait son atelier... de l'autre côté, là, juste, enfin, il y a deux parties de la propriété qui est partagée par ce chemin. Et moi, je suis dans la maison de Mayol, qui a été bâtie par Mayol, parce que j'ai connu son dernier modèle, qui était Dina Vierny.
Ah, vous ne l'avez pas juste racheté comme ça par hasard ?
Je n'ai pas racheté, je suis locataire.
D'accord.
Ici, c'est une propriété qui appartient aux amis de l'association des amis de Mayol. Mayol, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand sculpteur français du XXe siècle. Disons que Rodin disait que c'était son successeur. Donc moi, je voulais être sculpteur. J'ai connu Dina Vierny dans des conditions extraordinaires. Et grâce à elle, je suis ici aujourd'hui.
La sculpture, je n'en ai pas vu. Mais en revanche, il y a des tableaux signés Hugo Frey un peu partout. Là, on est dans le salon, il faut dire. Hein. On est dans le Saint-Dessin parce qu'il y a un piano, des guitares partout, des partitions, on va y venir. Mais il y a des tableaux et au-dessus de la cheminée... Il y a un tableau, un portrait du fantôme du Bengale.
Oui, un héros de ma jeunesse.
Un héros de bande dessinée.
Moi, j'ai connu ce que j'appelle l'âge d'or de la bande dessinée, avec le plus grand, pour moi, le plus grand, c'est Alex Raymond, qui faisait Guy Leclerc et Jungle Jim la jungle. Mais il y en avait un autre.
Guy Leclerc qui est Flash Gordon, en fait.
Flash Gordon.
C'est la version française.
En fait, Guy Leclerc et le fantôme du Bengale sont les ancêtres. Les pionniers, les premiers surhommes comme celui-là qui lui est masqué avec ce costume rouge et avec son chien Satan. Et quand j'étais petit en 1942, c'était mon idole.
Là, il y a plusieurs guitares. C'est laquelle votre préférée? Est-ce qu'elles ont des spécificités?
Alors ici, c'est des guitares de travail. Ça, c'est une guitare de scène. C'est une guitare dont il faut parler. C'est français.
C'est Lag.
C'est une guitare française. qui est très bien pour ce que les pratiques, elle est légère.
Très jolie.
Elle a tous les avantages. Il y a l'accordeur incorporé. Le manche est très bon. Ça, c'est une takamine que moi, j'ai accordée en ré.
Et il y a un harmonica avec l'armature qui permet de le porter en même temps qu'on joue de la guitare. C'est très Bob Dylanien, ça.
Ou du piano.
Ou du piano, d'ailleurs.
Piano, oui. Ouais.
Et justement, là, il y a une première bibliothèque où je vois du Bob Dylan dedans. Il y a des chansons de Leonard Cohen aussi.
Non, ça, c'est ici, Dylan. Alors.
Ah ouais, Dylan, c'est carrément un hôtel à Bob Dylan.
Là, ça, c'est Dylan, tu vois. Là, mais alors, il y a vraiment des... Il y a des trucs, tu vois. Regarde.
Ah ouais, il y a des collecteurs, là.
Oui, c'est que des collecteurs.
C'est beaucoup de beaux livres, en fait, avec des...
Avec des beaux
livres. Des belles images. Il y a des DVD, des concerts.
Ouais, voilà. Et puis, ça, c'est son dernier disque.
Il y a même un écusson. C'est quoi, cet écusson Bob Dylan?
Oui, ça, c'est un écusson Bob Dylan.
Viva Italia, Bob Dylan.
Oui, Viva Italia. Ouais.
Avec un Vespa.
Ouais.
C'est marrant, ce truc.
Oui, ça, c'est un truc...
T'as un concert en Italie?
C'est un truc qu'on m'offre. Souvent, c'est des fans qui m'offrent des trucs. Ça m'a été offert. Alors, sous Dylan, on a Brassens. On a tout Brassens.
Les poèmes et puis, chansons ça, de Leonard Cohen.
Oui, il y a Cohen. Tiens, mais Dylan, pourquoi il est là, Dylan? Il devrait pas. C'est encore du Dylan ici. Attention, t'as vu?
Ça, c'est des biographies.
Vu. Et la Springsteen? Ah ouais.
Il y a du monde.
Mais c'est-à-dire que tout ça, moi, le voisinage Dylan, Brassens, c'est normal.
Il y a Trenet, il y a Boris Vian. Ça, c'est tous les livres consacrés aux chanteurs.
Voilà. C'est ça, oui. J'en ai beaucoup d'autres encore, mais il y a Félix Seclair ici qui est très important.
Et il y a des dictionnaires tout en bas. Vous vous servez beaucoup des dictionnaires?
Non, pas tellement, mais je suis très, très, très attaché à l'étymologie.
Ah oui.
Ça, c'est très important pour moi.
Dictionnaire étymologique.
Et je trouve qu'on devrait enseigner l'étymologie aux gens qui s'occupent de l'enseignement et qu'ils font, les enfants ne font plus de grec ni de latin. Alors, par exemple, ils ne savent pas pourquoi pharmacie, ça s'écrit PH. Bon, si vous êtes grec, ils sauraient. Mais surtout, l'étymologie...
Vous avez fait du grec et du latin, vous?
Alors, grec et latin, oui, à mort.
Vous aimiez ça?
Oui. Sans étymologie, c'est comme si tu avais des plantes sans racines, quoi.
Mais vous étiez un bon élève, vous, assidu et tout? Moi, je vous voyais plutôt aller jouer de la guitare pendant les cours.
Non, j'étais un mauvais élève parce que, justement, je faisais 40 fautes d'orthographe dans une dissertation sur laquelle j'avais la notation du professeur. C'était « Hugues, vous avez 20 sur 20, vous avez la meilleure dissertation, mais alors je suis obligé de vous décaler parce que vous avez 40 fautes d'orthographe. Je retire 2 points par faute d'orthographe. Vous avez plus que 0-0. »
Je crois que je vais m'évanouir, Geoffrey. Là, on vient de changer de pièce. Et alors, il faut quand même que j'explique. On vient changer de pièce. Il y a des bibliothèques, des meubles un peu partout autour de la pièce. Et puis, il y a des post-it pour s'y retrouver. Ouais. Donc, on va y venir. Mais il y a histoire et divers, philosophie, enfin, religion. Et puis, il y a aussi un post-it spécial pour Céline. Vous avez une admiration particulière pour Céline ou c'est juste que vous en avez beaucoup et vous fallait mettre une étagère complète?
Il y a
des biographies, des romans, évidemment, de Céline. Il y a tout.
Celui-là, vous l'avez lu?
Ah non.
Ça, c'est le plus important.
Semmelweis. Et alors, c'est quoi?
C'est ça. C'est quand il a passé ses études de médecine, parce qu'il avait une vocation, il voulait être médecin, lui. Il n'a jamais voulu être écrivain. Hein. Et il a fait son... Il a passé son je ne sais pas comment...
Sa médecine, quoi.
Sa médecine. Ouais. Il a écrit ça, c'est la biographie d'un type extraordinaire qui s'appelle Semmelweis. Et qui est mort fou, qui a inventé l'hygiène. Ah oui. Si aujourd'hui vous lavez les mains...
C'est un grand hygiéniste, Céline, effectivement.
Et c'est Céline qui a écrit ça.
Et alors, justement, il faut qu'on en revienne quand même, parce qu'il y a effectivement la bibliothèque Rimbaud, l'étagère Rimbaud, qui est partagée avec Renaud.
Oui.
Pourquoi? C'est parce que c'est le poète Renaud?
Renaud, c'était... quand j'ai vu Renaud, je vais vous dire tout de suite... Ne se croyez pas, je ne suis pas du tout prétentieux, mais quand j'ai vu Bob Dylan d'abord, en 61, je me suis dit, le choc que j'ai, c'est ce que Verlaine a reçu quand il a vu Rimbaud. Un choc incroyable. Rimbaud, 15 ans, Verlaine, il n'a que 10 ans de plus que lui, hein, il a 25 ans quand il le voit. mais il était déjà chauve. Et là, c'est bouleversé. Moi, quand j'ai vu Gainsbourg, la première fois, j'ai eu un choc. J'ai pas eu l'impression que je voyais Rimbaud, mais je voyais quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on fait une décennie de plus, ou deux décennies, quand je vois pour la première fois Renaud, ah, je me dis ça, alors je vois quelque chose d'extraordinaire. C'est pas mon fils, mais c'est une sorte de petit frère, quoi.
Mais vous êtes amis depuis toujours avec Renaud ou vous
Oui,
vous
oui, oui. Là, en ce moment, lui, il est dans le Midi, puis donc il a une... il a une vie un peu différente, mais vraiment, c'était. Je suis très fidèle en l'amitié.
Dernier post-it de cette bibliothèque, quand même, je voudrais en parler, c'est l'étagère Jean-Paul Auffray.
Ah oui.
C'est qui ?
C'est mon frère, qui est un génie mathématicien. C'est un génie mathématicien. Son fils, Charles, est. On a dit de lui qu'il était le futur prix Nobel de biologie.
Quand même.
Mon frère a...
Alors là, il y a des bouquins de mathématiques et de biologie et tout ça.
Ah oui, tiens. Oui, bah oui. Ça, c'est...
L'espace-temps de Jean-Paul Auffray.
Oui. Puis il y a ça aussi, ça, celui-là qui est...
Einstein et Poincaré de Jean-Paul Auffray.
Où Jean-Paul explique évidemment que la théorie d'Einstein, c'est Poincaré qu'il a quand même découvert avant. Mais enfin, c'est comme ça. Voilà, là,
c'est quand même assez beau d'avoir une étagère avec le nom de votre frère collé dessus.
Ah oui. Ce que je voulais vous dire, par exemple, vous voyez, un des plus grands mathématiciens qui a jamais existé, c'est Évariste Galois.
Oui, bien sûr.
Et il y avait pratiquement...
Qui est mort à 22 ans ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, c'est ça. Et c'est à ma demande que mon frère a écrit sa biographie. Ah. Voilà. Donc, voilà, Jean-Paul, il a 94 ans et il est toujours en train d'écrire sur les mathématiques.
Merci beaucoup, Hugo Auffray, de m'avoir fait faire la visite de votre bibliothèque.
Oui. Je vais vous dire, j'ai le coutume de dire que quand on a fait l'interview, on se dit toujours « Oh, mais pourquoi je n'ai pas dit ça, il y a ça
bah. ». Je vous laisse un bonus, si vous voulez.
Il y a des tas de gens. On est obligé de se limiter, c'est ça qui est terrible. Là, je terminerai simplement en vous disant, je crois que même si je vivais 1000 ans, je n'aurais pas réussi à lire tout ce que j'ai envie de lire.
Voilà. C'est ce qui est beau. Merci beaucoup, mon frère.
Merci à vous.
De retour en studio avec Hervé Le Tellier qui publie L'Anomalie chez Gallimard. Vous avez écouté la visite de la bibliothèque d'Hugo Auffray. Et chez vous, Hervé Le Tellier, je rappelle que vous êtes romancier, mais aussi traducteur, vous lisez énormément. Vous êtes aussi membre de l'Oulipo, d'ailleurs, dont on parle parfois dans cette émission, qui est une sorte de société pseudo-secrète, un peu, quand même.
Discrète. Ah,
si, discrète.
Discrète.
Qui joue avec les mots. Et voilà, c'est les héritiers de Pérec et Raymond Queneau, etc. Comment... racontez-nous un peu votre bibliothèque. À quoi elle ressemble?
Je crois qu'elle est divisée en deux, dans mes souvenirs. Une partie qui est purement romanesque, et puis le reste. Voilà. Et puis j'organise d'une manière simple, c'est-à-dire alphabétique d'auteur.
Mais l'organiser, donc.
Oui.
C'est rarement le cas.
Oui, c'est rarement le cas. Il y a quelqu'un qui me disait que la meilleure organisation possible, ça serait de ranger les bibliothèques par date de naissance de la mère de l'auteur.
C'est compliqué.
C'est un petit peu compliqué.
Il faut s'en souvenir.
C'est une compétence assez poussée. Mais quand on y réfléchit, c'est pas absurde. Parce que finalement, c'est toujours de manière, comment dire, familiale qu'on finit par avoir une éducation littéraire. Ou pas. Mais en tout cas, la datation par la date de naissance de la mère de l'auteur, je trouvais ça assez amusant.
Et c'est quoi votre rapport à l'objet livre, justement ?
J'ai pensé longtemps que...
Déférence ou...
Non, je ne suis pas du tout bibliomane. Je dois avouer que récemment, j'ai acheté une édition originale parce qu'elle était à 1 euro.
C'était quoi ?
Et c'était Les Racines du Ciel de Romain Gary dans un vide-grenier il y a 2 jours. Et je me suis dit, oh quand même...
Un euro ?
Bon, ça vaut 10 euros sur eBay. Mais bon, j'avais envie de la voir parce que c'était un livre que j'avais lu dans ma jeunesse. Et que j'avais adoré, qui est un des premiers livres écologiques, en fait, quand on y réfléchit, d'Europe, quoi. Parce que c'est un livre qui raconte l'histoire d'un homme qui veut sauver les éléphants. C'est un très joli livre. Mais sinon, je ne suis pas du tout, fétichiste du livre. Pour autant, j'ai du mal à lire sur autre chose que du papier. Mais je pense que je ne dois pas être le seul, puisque la tablette, dont je pensais qu'elle allait remplacer le livre, n'a pas vraiment conquis la place qu'elle pourrait occuper. Elle a entièrement, évidemment, supplanté les encyclopédies, les dictionnaires, mais pour le reste, un livre reste un livre.
Vous annotez, vous gribouillez sur les livres
non,
que
jamais.
Vous aimez ? Non ? Ah, quand même.
Non. C'est pas du respect, c'est juste que j'ai pas de crayon. Je trouve jamais mon crayon pour faire ça.
Bon, restez avec nous, on va retrouver le crayon dans un instant. Plein d'autres livres, il est l'heure des libraires. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour de La Voix et Livre, toujours avec Hervé Le Tellier, qui publie L'Anomalie chez Gallimard, l'un des meilleurs romans de la rentrée. On le trouve notamment chez les libraires, bien sûr, et sûrement chez Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine à Paris, rue de la Pompe. Nous sommes allés lui rendre visite. Bonjour Stanislas Rigaud.
Bonjour Nicolas.
On est enfin dans la librairie Lamartine, cette fois c'est nous qui nous déplaçons. Et alors en plus, moi je la connaissais déjà bien sûr, j'adore cette librairie parce
Merci.
Que je la trouve grande mais à la fois dense. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourra trouver absolument n'importe quel livre et en même temps c'est clair. Voilà. Et ça c'est vachement important dans une librairie, la manière dont on dispose des livres. C'est même une sorte d'alchimie très compliquée à réaliser.
Oui, c'est vraiment l'ADN du magasin, c'est-à-dire la manière dont vous orchestrez tout ça. Et c'est vrai qu'ici, avec la surface que nous avons la chance de pouvoir avoir à la fois effectivement un magasin très rempli avec énormément de volume et énormément de stock, et en même temps, une présentation qui peut être facilement claire. En tout cas, je pense.
Alors, je suis en client incognito, là, Stan, même si j'ai le micro européen. qu'est-ce qu'il y a à lire en ce moment ? Qu'est-ce que vous donnez à vos clients ?
Alors, la rentrée littéraire, c'est forcément Noël pour le libraire. Hein. Plein de livres à lire, ça fait des semaines qu'on lit. Alors, énorme coup de cœur pour le Colson Whitehead, Nickel Boys, chez Albin Michel, Le retour du grand écrivain américain, avec ce qui est pour moi son meilleur livre. C'est peut-être, c'est toujours les gros mots, hein, mais ça a une tronche vraiment de futur classique de la littérature américaine. Un texte au cordeau sur le destin d'un gamin dans l'Amérique des années 60 qui va être enfermé dans une maison de correction, pas une prison, une maison de correction avec des blancs et des noirs. C'est important parce que c'est effectivement pas un lieu qui est destiné uniquement aux noirs et forcément qui va avoir un destin absolument affreux. C'est remarquablement écrit, d'une rare puissance, et dès la première phrase qui, si je me souviens bien, c'est « Même mort, les enfants posaient problème ». J'adore ce livre.
Moi aussi, j'en ai beaucoup parlé. À qui le dites-vous ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Énorme coup de cœur aussi pour Camille Laurence avec Fille aux éditions Gallimard, qui est pour moi, effectivement, logiquement, un des succès à venir énormes de cette rentrée littéraire. Tous les gens que je connais, à de rares exceptions, ont adoré ce livre. Et effectivement, c'est le destin. Comme son titre, le livre est très facile, c'est l'histoire d'une fille, Mademoiselle Barraquet. J'adore ce nom en plus. Mademoiselle Barraquet, qu'on va suivre de sa naissance et pendant des décennies. Et au travers des décennies, on va suivre le destin de cette petite fille qui va devenir une femme et une société française. On commence à la fin des années 50, qui va forcément se métamorphoser. C'est drôle, c'est poignant, c'est d'une rare justesse. Camille Laurence réussit à mettre énormément de choses dans un livre assez court qui se lit comme le meilleur des polars, c'est-à-dire qu'effectivement on tombe dedans, on le lâche pas. Moi je reste ébahi de ce livre. À mon avis, je vous dis, c'est un de mes très très gros coups de cœur et je pense que ça va devenir un des gros coups de cœur du magasin. Oui.
Bon alors, Colson Whitehead, Camille Laurence, mais votre gros coup de cœur, votre coup de cœur majeur d'aujourd'hui, vous connaissez le jeu, Stan.
Voilà. Alors, moi je voulais parler du retour, donc non pas de Camille Laurence, mais de Camille Pascal avec La Chambre des Dupes chez Robert Laffont.
Qui est un homme.
Voilà, qui est un homme, qui avait eu le prix de l'Académie pour son précédent livre, L'été des quatre rois. Et très gros succès, et qui revient avec un livre qui monte tout d'un cran, c'est-à-dire et la tenue de l'histoire, et le style, et la puissance d'évocation. Et on va partir à la cour de Louis XV. Et une période d'histoire que je connaissais assez peu, et avec le destin de celle qui va devenir la duchesse de Châteauroux, qui est une favorite, qui va donc arriver à la couche du roi après ses deux sœurs aînées, ce qui déjà cible un petit peu le contexte, et qui va avoir un rôle assez fort dans la politique. Et c'est la première, sous le règne de Louis XV, une femme favorite qui va s'imposer de manière autre que maîtresse. C'est puissant, c'est brillamment construit. C'est terriblement cruel. Les scènes de cours s'enchaînent, les répliques tuent. C'est absolument... Moi, j'ai adoré, très gros coup de cœur.
Camille Pascal, donc, le titre ?
C'est La Chambre des Dupes, chez Robert Laffont.
Merci beaucoup Stan, et puis je vous laisse parce que là on vous tourne autour de partout, ça commence à bien se remplir. Merci beaucoup en tout cas, merci Stan.
Merci Nicolas. À bientôt, merci à tous.
Retour à Europe 1 avec l'écrivain Hervé Le Tellier. Vous aimez vous flâner dans les librairies? Est-ce que comme beaucoup d'écrivains, vous vouez une sorte de culte aux libraires? Est-ce que vous en avez un favori qui vous connaît bien et tout ça?
Oui, je voue un culte aux libraires. Je pense que les écrivains ne sont pas grand-chose sans les libraires, que ce sont les principaux passeurs en fait, des livres que nous écrivons. Je vais souvent dans les librairies d'occasion aussi, pour trouver des choses qui malheureusement ont disparu des catalogues. Et puis je vais dans des libraires à Paris et dans ma petite maison de campagne où je vais aussi souvent.
Mais vous n'avez pas votre libraire à vous avec qui vous avez une
libraire que j'aime beaucoup, particulière. Qui est une libraire qui s'appelle Isabelle Schulman, qui se trouve près de la place Mouffetard. C'est loin de chez moi, mais c'est une amie et je vais souvent acheter chez elle. Et elle s'appelle Les Traversées, sa librairie. Et je vais aussi souvent à côté de mon village, donc dans la Drôme, à Dieulfi, dans une librairie qui s'appelle Sceaux et Gambades, qui est tout à fait charmante, avec un salon de thé, une terrasse. Enfin, c'est un endroit merveilleux pour s'installer pour lire.
Et les romans jeunesse, vous en lisez? Ne me dites rien. Gardez vos cartouches. Dans un instant, je vous demanderai quand même quel est votre livre jeunesse, juste après la chronique de ce grand enfant de Victor Dolande qui nous rejoint tout de suite.
Il était une fois.
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 Et bonjour Victor Dolande.
Bonjour Nicolas.
Comme chaque semaine, on retrouve votre conseil littérature jeunesse. Aujourd'hui, vous vouliez nous parler du rapport à la lecture si particulier pour les plus petits.
Oui, quand on demande à des auteurs chaque semaine quel livre vous a marqué dans votre enfance, ils citent à peu près toujours un roman qu'ils ont lu généralement entre 6, 7 et 9, 10 ans. Mmh. Mais ils ne parlent jamais de leur première sensation de lecture. Ben, c'est normal, en fait, elles sont souvent trop loin, enfouies dans notre mémoire, impossible à exhumer pour en parler correctement, alors que oui, le plaisir de la lecture, il commence dès 18 mois et même avant.
C'est-à-dire, vous parlez des sensations?
Oui, ces sensations, c'est une question d'habitude. Je prends l'exemple de ma fille, Alice, 22 mois. Dès que je lui propose de lire, elle va systématiquement s'installer sur le canapé ou sur notre lit. Le lieu de lecture, c'est comme une habitude essentielle à cet âge. Je choisis quelques albums et c'est elle qui commence la séance. Et si par malheur je prends le mauvais livre en premier, elle a vite fait de me montrer celui qu'elle veut.
Ça.
Vient ensuite le plaisir de prononcer les premiers mots, reconnaître un objet et le nommer. C'est aussi ça le plaisir de la lecture.
C'est ballon. Ouh la ballon.
Alors dans ses monologues, Alice bredouille forcément des mots incompréhensibles, mais quand elle en maîtrise un sourire immense lui mange le visage.
Cochon.
Je viens d'imaginer, de vous imaginer en train de lui faire la lecture avec votre micro Europe 1.
C'était
franchement, vous
gâchez
tout. Il y a des signes qui ne trompent pas quand même dès le plus jeune âge pour voir ce plaisir de lecture.
Oui, faites le test chez vous, c'est très simple. Terminez un livre, refermez la quatrième de couverture. Si votre enfant aime, il dira ça. Si vous hésitez encore à commencer la lecture à votre enfant parce que vous le jugez trop jeune, surtout n'hésitez plus, lancez-vous, ce sont des moments uniques avec votre enfant. Et je vous donne deux superbes histoires, deux superbes références très récentes. Deux livres, une histoire d'amitié très touchante entre un petit pois et une carotte. Et le deuxième, c'est carrément un immense coup de cœur, une histoire d'amour entre un jeune retraité, Herman, et sa jeune moule domestique, Dominique.
Oh, c'est
deux
bizarre,
valeurs, deux valeurs sûres pour créer ces fameuses sensations de lecture chez les plus petits. C'est bizarre, mais l'histoire est vraiment géniale.
Ça marche.
Achetez-la, vous irez, bon. vous apprécierez sans problème.
Et les titres, Petit pois carotte de Morag Oud, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, et Herman et Dominique d'Alexandra Pichard, c'est édité par Thierry Magnier. Merci Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Et vous Hervé Le Tellier, est-ce que vous avez un livre qui vous a accompagné pendant votre enfance? Pas forcément un livre de jeunesse d'ailleurs, mais enfin, je veux dire catégorisé dans la littérature jeunesse.
Quand j'étais enfant, j'étais comme tout le monde, je lisais la Bibliothèque Rose. J'ai dû lire Enid Blyton, Le Club des Cinq, et des choses qu'on lisait quand j'avais donc 10 ans, 5 ans.
Vous savez que le Club des 5, ça a été repris aujourd'hui, réécrit.
Ah oui?
Pour enlever tous les passés simples et tout ça.
Ah,
pour
quelle
que ce
horreur.
Soit plus,
bon, enfin,
plus accessible.
Je ne vais pas faire mon vieux con. Mais
je sais
c'est
pas, c'est une vraie
dommage.
Question. Moi, ça m'intéresse, cette question.
Bah, j'ai pas vu la nouvelle version, donc c'est difficile de dire.
Oh, c'est correct, hein, mais je veux dire, c'est modernisé. C'est-à-dire
oui.
qu'on parle au présent de narration, etc. Il n'y a plus les passés simples et les phrases un peu alambiquées de l'époque.
Je me rendais pas compte. Alors c'est ça qui est complexe, c'est que je me rendais pas compte que c'était alambiqué. Donc c'est sans doute que la lecture a changé. Moi, mes premiers livres, c'était sans doute Jules Verne, quand j'avais 10 ans, 11 ans. Et puis après, je suis tombé dans la science-fiction américaine. Et puis après, je suis arrivé à ce qu'on appelle maintenant les classiques. Donc, puis j'adorais Gary. Mmh. Franchement, j'adorais Gary et j'adorais Calvino. Donc ce sont vraiment mes lectures de jeunesse. Marco Valdo de Calvino, Cosmic Comics, ce sont des livres que j'ai lus très jeune et que j'ai adorés. Et puis les livres d'Ajar comme La vie devant soi, c'était pour moi, j'avais 15 ans, quand c'est sorti, c'était merveilleux.
Ajar qui est donc Romain Gary.
Romain Gary.
Et ça, ce sont des livres qu'on peut lire évidemment aussi adultes.
Oui, voilà. Bien sûr. Mais ce sont des livres vraiment qui peuvent donner envie de lire tout de suite, comme La conjuration des imbéciles.
De John Kennedy Toole, grand roman. Merci Victor, on vous dit à la semaine prochaine et merci beaucoup à vous,
merci
Hervé
beaucoup.
Letellier. Merci d'être venu, de nous avoir accordé une heure de votre temps et merci pour ce livre génial que je conseille vivement, L'Anomalie. Donc, c'est chez Gallimard. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresse et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.